liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes, faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir est un brillant intellectuel, un expert international, je dis bien expert, hein, un expert avec expertise. Ce soir, nous allons parler de la géopolitique mondiale et puis les rapports de force, aussi bien sur le plan militaire, économique, sur le plan de la technologie. Et nous avons comme invité le docteur Ahmed Sow, ancien ministre de l'énergie et des mines. Docteur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci de répondre à notre invitation.
C'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque fois.
Le plaisir est partagé. Ils sont nombreux qui demandaient de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous répondez ce soir aux multiples téléspectateurs, à ces nombreux téléspectateurs qui demandaient de vos nouvelles?
Écoutez, je suis désolé, c'est que je suis très pris. Oui. Je suis très pris. Je suis à la tête d'un groupe qui a plusieurs filiales, qui travaille dans divers pays. Donc, bien que je sois un peu à la retraite parce que je ne suis plus que PCA, mais je suis tenu d'aller visiter les différentes filiales, de discuter avec les directeurs nationaux. Ça me prend beaucoup de temps.
D'accord. Voilà. Mais vous avez le Mali.
Le Mali, je fais tout. Voilà. J'ai comme objectif de tout faire pour être là au moins une fois tous les deux mois pour les séjours de 10 à 15 jours.
D'accord. Oui, on va parler après de l'actualité nationale malienne. Je rappelle juste votre parcours, votre brillant parcours. Vous êtes diplômé de l'Institut national des sciences nucléaires de Saclay en France et titulaire d'un doctorat en économie de la production de la célèbre université de Paris 9, Dauphine. Vous avez occupé des grandes fonctions et d'assistance technique dans des institutions internationale comme la Commission européenne, la Banque mondiale et surtout le CDE. Le CDE, c'est le Centre de développement de l'entreprise à Bruxelles, actuellement expert international dans la finance, l'énergie, les mines et aussi dans l'agro-business. Monsieur le ministre, est-ce que c'est beaucoup de casquettes à la fois?
Bon, c'est un parcours, mais il faut dire aussi que ça fait quand même plus de 35 années de carrière.
Carrière bien remplie aussi. Oui. D'accord, on apprécie de passage votre humilité, malgré ce brillant parcours qui impressionne. Monsieur le ministre, nous allons parler de la géopolitique mondiale, comment se portent aujourd'hui les relations internationales. On va faire peut-être un peu d'histoire, on va interroger un peu les enjeux économiques, les enjeux au niveau de l'énergie, au niveau aussi des technologies même, au niveau de la sécurité. Voilà, donc avec vous, vous avez sillonné le monde, vous avez travaillé dans les 5 continents et votre groupe est présentement dans plusieurs pays en Afrique, vous l'avez rappelé, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. Aujourd'hui, en tant qu'acteur, un grand acteur de l'économie mondiale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la situation au niveau mondial, rapidement?
Bon, disons, je dirais que je suis plutôt un petit acteur de la situation de l'économie mondiale, parce que c'est sans commune mesure avec les grands acteurs. Alors, quelle est ma lecture de la situation internationale? C'est que nous sommes, comme le titre le dit bien d'ailleurs, dans un monde de plus en plus incertain. Nous avons une situation de tension à l'échelle internationale. Après le Covid, on espérait pouvoir repartir. Et puis, voilà qu'il y a cette guerre russo-ukrainienne qui a changé beaucoup de donne. Mais je dirais aussi que non seulement nous sommes dans une situation de tension, mais c'est aussi un nouvel ordre économique mondial qui est en gestation et qui va certainement nous donner un nouveau monde et je dirais qu'un monde multilatéraliste où il n'y aura plus un gendarme du monde qui impose sa règle au reste. Je crois que ça, tout le monde, tous les observateurs sont d'accord sur ça. Ça va se traduire par l'émergence d'autres pôles économiques, on va en parler, tels que les BRICS. Et aujourd'hui, il faut dire aussi que quand on regarde le mouvement de l'histoire, il y a un basculement vers l'Asie. C'est-à-dire que, quand on observe bien, le 15e siècle, c'était le Portugal, okay. Ensuite l'Espagne, c'est les Vasco de Gama, les Christophe Colomb, qui ont découvert les Amériques. Okay. Ensuite, au 17e siècle, c'était la France, oui. Avec sa puissance maritime, mais aussi la France de la culture. C'était la belle époque de Renaissance avec les Louis XIV et autres. Oui. Et puis, au 19e siècle, okay. C'est l'Angleterre qui est devenue la première puissance okay. économique, maritime du monde. Okay. Et puis, le 20e siècle a été marqué par la puissance des États-Unis. Okay. Ouais, 20e siècle, début du 21e siècle. Mais aujourd'hui, je dirais que le curseur est en train d'évoluer et d'aller vers l'Asie, mais notamment vers la Chine et l'Inde. Okay. Donc, c'est dire que nous, Africains, on doit espérer que le 22e siècle ou le 23e siècle soit celui de l'Afrique.
Oui, mais est-ce que vous avez déjà des signaux, vous l'avez dit, hein, le 21e siècle, le 22e siècle, soit celui de l'Afrique. Est-ce qu'il y a des signaux? Ou est-ce qu'il y a des signes encourageants qui peuvent nous dire que nous sommes sur peut-être la voie de l'émergence? Est-ce qu'on est très loin de l'émergence?
Alors, nous avons un atout indéniable, c'est la population et surtout une population jeune. Quand on fait des projections à l'horizon 2050, on se rend compte que l'Afrique subsaharienne serait la zone la plus peuplée du monde. On va doubler notre population. On va être autour de 1,4 milliard, sinon un peu plus. Oui. Devant la Chine, devant l'Inde. Okay. Et c'est une population qui est jeune. Okay. Alors que dans les autres continents, okay. y compris en Chine, la population vieillit. Elle ne se renouvelle pas. Mm-hmm. Donc, ce dynamisme africain est un atout. Mm-hmm. C'est un atout. Ce qui nous reste mm-hmm. maintenant, c'est de pouvoir nourrir toutes ces populations, c'est de pouvoir les former, et ça, c'est un enjeu essentiel pour l'Afrique.
Oui, mais au niveau de l'Afrique, est-ce qu'il y a les questions de développement, les questions de démographie, vous avez parlé de la démographie tout de suite, hein, qui est un enjeu important, qui peut être un enjeu important dans les années à venir, mais déjà, au niveau des questions économiques, des questions de démocratie, est-ce que ça freine un peu? C'est-à-dire que souvent, on sait que ce sont des démocraties un peu fragiles. Est-ce que ça freine un peu souvent le développement du continent?
Bon, je crois qu'il faut poser le problème en termes surtout de bonne gouvernance. Moi, je crois que la démocratie à l'occidental ne doit pas être comme, je dirais, une parole coranique où tout le monde, dans une espèce de moule où nous devons tous rentrer. Nous devons l'adapter en fonction de nos réalités. Moi, peu importe. Si vous prenez les critères occidentaux, quelqu'un comme Kagame n'est pas un modèle de démocrate. Mais pour moi, c'est un développeur, c'est un bâtisseur. Okay. Et ce qui est important, c'est que les Rwandais se sentent bien. Mm-hmm. Hein, et qu'on voit les résultats. Quand on va à Kigali, on voit les résultats. Quand on va dans les campagnes rwandaises, on voit les résultats. Idem pour le Botswana. Mm-hmm. Donc, je veux dire que Singapour, quand Singapour a commencé son développement, écoutez, ce n'était pas un modèle de démocratie non plus. Donc, cette démocratie à l'occidental qui devient
une obsession
où on doit tous passer, je crois qu'il faut on doit se défaire et adapter. Et puis bon, c'est pas une démocratie qu'ils ont inventée. Si vous prenez la charte du Mandé, la démocratie existait déjà, on parlait déjà de ce que l'homme souhaite faire, de ce qu'il souhaite manger, de ce qu'il souhaite dire, de ce qui voilà. Donc c'est pas un concept fortement occidental. Mais j'ajoute simplement que le seul critère qui est important, c'est toujours de se poser la question quel est l'intérêt du pays et quels sont les intérêts de la population.
Oui, mais est-ce que, en termes de vision, qu'est-ce qu'il faut construire? Parce que vous avez parlé de l'émergence de certains pays de l'Asie aujourd'hui qui tiennent pratiquement la barre. À un moment donné, selon certains analystes, on était au même niveau de développement que ces pays-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'aller dans des années de lumière en termes de comparaison?
Oui, vous avez parfaitement raison. Moi, je me souviens quand je commençais mes études en économie. Il y a longtemps, on m'expliquait qu'un pays comme la Corée du Sud, sans matières premières, avec une population très importante, avait peu de chances à l'horizon 2000 de se développer, que par contre, un pays comme l'actuel RDC, avec ses ressources minières, avec ses terres arabes, avec ses cours d'eau, avait toutes les chances de se développer. Ce qu'en ce moment-là, les experts des Nations Unies n'avaient pas intégré, c'était la dimension humaine. Moi, je pense que j'ai beaucoup sillonné le monde. Et il y a une conscience, à laquelle on ne déroge pas. Tout est une question d'homme. Il n'y a de valeur que l'homme. Et c'est les hommes qui font, ce sont les hommes qui font l'histoire, ce sont les hommes qui défendent l'histoire. Et partout où j'ai vu que ça marche, il y a eu des dirigeants visionnaires qui se sont entourés d'hommes compétents, qui les ont confiés des responsabilités et qui ont travaillé. Il n'y a pas d'autre recette. Vous n'avez pas de déception en la matière. Il n'y a pas un seul pays qu'on peut me citer qui s'est développé sans grands hommes d'État, sans équipe compétente, avec une règle essentielle qui est la récompense du mérite et la sanction de l'échec.
La récompense du mérite et la sanction de l'échec. Sur notre plateau, une fois, vous avez ici parlé, vous avez même dénoncé le manque qu'il y a des ressources humaines au Mali, au niveau de l'administration. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir des ressources humaines de qualité pour amorcer le vrai développement et sortir souvent des slogans creux qui ne font que faire rire sur le pays?
Bon, petite remarque, mon cher, c'est que on s'éloigne un tout petit peu de la géopolitique, mais je comprends votre préoccupation. Je dirais que notre drame actuel, c'est vraiment l'état de l'éducation nationale, qui est complètement inadapté par rapport aux besoins réels du pays. Quand vous regardez, chaque année, nous formons presque 10 000 chômeurs potentiels. Quand vous voyez les nombres de juristes qu'on forme, j'ai rien contre les juristes, j'ai beaucoup de respect contre eux, mais c'est par rapport aux besoins du pays que je m'explique. Le nombre de sociologues, de politologues qu'on forme, d'économistes aussi, et de gestionnaires.
Même des sociologues
aussi. Mais on en forme beaucoup. La fonction publique recrute très peu. Le niveau de développement des entreprises n'est pas élevé tel enseigne pour absorber tous ces jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Alors, comme je dis, il y a à peu près 10 000 qui sortent quand on met les différentes facultés, plus l'ENA, plus l'ENI, etc. On se trouve à peu près à un chiffre assez élevé et où à peine 10% est absorbé par le marché de l'emploi. Résultat, il y a 9 000 jeunes qui sont là. Alors, et le drame, c'est que ça s'accumule au cours des années. Aujourd'hui, d'aucuns disent qu'il y a plus de 100 000 jeunes chômeurs, diplômés jeunes chômeurs, qui sont dans l'axe Bamako-Ségou-Ségassou. Une véritable bombe à retardement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la formation professionnelle. Il faut que, d'abord, nous ayons un véritable plan de développement avec des objectifs clairs et en définissant clairement les moyens pour y arriver. Ça, c'est important. Bon, il est vrai que nous sommes dans une situation particulière qui est la guerre. Donc, tant qu'on n'a pas assuré notre sécurité, il est difficile de parler de développement. Mais si on fait une hypothèse optimiste pour dire que cette guerre, elle finira bien un jour, le plus tôt que possible, si Dieu le veut bien, en ce moment-là, qu'on se pose les questions de fond, il faut absolument adapter notre système de production d'abord, transformer nos produits. Ensuite, regarder les besoins réels de l'économie pour adapter la formation. Et ceux qui ont été déjà formés, qui sont sur le marché de l'emploi, créer beaucoup de centres de formation professionnelle pour qu'ils puissent avoir une seconde chance sur le marché de l'emploi.
D'accord. Docteur Ahmed Sow, restons toujours sur le sujet, notre sujet de géopolitique. Et aujourd'hui, on entend parler de géopolitique. L'expert parle de géopolitique, on parle de géostratégie, d'intelligence économique, intelligence artificielle. Ces notions-là, est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que ça... Parce que souvent, on en parle sans donner un contenu réel, et puis on voit ça va dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous éclairer par rapport à ces concepts géopolitiques, intelligence économique, intelligence artificielle?
Bon, je vais essayer de faire simple. La géopolitique, je dirais que c'est l'analyse des situations politiques, à travers les différentes zones géographiques et qui, pour simplifier aussi, qui peut se réduire à une sorte de, d'état des lieux sur les forces en présence, sur les antagonismes et sur les solutions possibles. Ça, c'est la géopolitique. Et à partir de cette analyse, il y a des stratèges qui définissent les voies et moyens pour faire atteindre, aboutir leur objectif. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'intelligence économique, ça, c'est la collecte, le traitement et l'exploitation des informations économiques qu'on met au service des entreprises. Alors, il y a également des actions d'éclat pour aussi attirer l'attention, comme il y a aussi des dispositions à prendre pour éviter qu'on se fasse espionner, donc tous les problèmes de sécurité informatique, etc. Ça, c'est en gros ce qu'on appelle l'intelligence économique. Il y a de renseignements dedans. On cherchera toujours à savoir votre technologie et comment l'adapter, etc. Donc, et il y a beaucoup de coupage, je dirais, en matière d'intelligence économique. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça c'est simplement tout ce qui est, je dirais, système qui puisse développer les machines, amener les machines à utiliser, à réaliser des tâches comme si c'était le cerveau humain qui travaillait. Et ça, ça va très vite. Ça va extrêmement vite, à telle enseigne que on commence même à avoir peur de ça. Je veux dire que aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous faire la démonstration. Je mets un logiciel, j'écoute votre voix, je l'enregistre, je la donne à la machine et j'organise un dialogue avec vous. Et c'est votre voix qui a l'impression. Alors, la démonstration qui a été faite, qui est amusante, c'est que le type, il fait dire à Macron, je me débarrasse de Brigitte, je l'envoie chez Hollande. Mais on a l'impression que c'est Macron qui parle. Sans compter toutes les images. Vous avez vu le pape en rocker, vous avez vu des policiers qui arrêtaient Donald Trump, vous avez vu Macron qui était comme un éboueur. Tout ça, c'est des images qui sont créées par l'intelligence artificielle. Il y a un chat GTP qui est 4, d'ailleurs la version 4, qui est fabuleux. Mais à tel enseigne que on se pose la question. Et Yana était devant le congrès américain il y a quelques jours, l'inventaire de ChatGPT, où lui-même il a reconnu qu'il faut absolument réglementer ça, parce qu'on peut se retrouver avec un système où la machine prend le contrôle.
Mais il faut craindre quand même, hein, parce que ces exemples-là, il faut aujourd'hui craindre, parce que ça veut dire que tout simplement, par exemple, si vous n'êtes pas d'intelligence, par exemple, avec une entreprise ou vous avez des soucis souvent avec des partenaires, et puis si on veut vous nuire à travers ce système-là, on peut carrément...
Ah oui, non, mais avant de partir, rappelez-moi, je mets ça à votre disposition, vous regardez. Ça donne froid au dos, hein. Ça donne froid. On peut, et aujourd'hui, crier, prendre votre voix, limiter. Bon, il faudrait vraiment des logiciels très poussés pour déterminer que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Bon, ce n'est pas tout à fait adapté encore au domaine, je dirais, à l'utilisation du français. Et je crois que nous, les Africains, on a encore un peu de chance parce qu'on a une intonation particulière qui est difficile, mais dans le monde anglo-saxon, Ça fait des dégâts. D'accord. Bon, mais il faut voir aussi le bon côté.
Il faut faire avec. On peut dire que c'est à double tranchant, un couteau à double tranchant.
Oui, c'est le progrès. Oui. Et on a toujours peur des révolutions technologiques. Oui. Ceci étant, il y a des aspects positifs. Aujourd'hui, avec ChatGPT, ça peut vous faciliter la vie. Vous m'envoyez un email, je mets cet email-là et je lui dis, répondez-moi. Il me fait mon email, je vous réponds. Il analyse ce que vous avez demandé comme information, il vous répond. Aussi, on peut refaire la démonstration. Donc, il y a beaucoup de choses qui avancent. Et d'ailleurs, ce qui est réconfortant, il y a toujours le pour et le contre des choses, c'est que l'année dernière, le nombre de brevets qui ont été déposés en matière de santé, c'est extraordinaire. Et il y a aussi des révolutions, à telle enseigne que certains comme Alexandre Salmaan, qui est un des grands gourous de la question, nous dit mais mourir à 100 ans, ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, puisqu'on parlait de population, que déjà, dans les pays occidentaux, ou je dirais dans les pays qui ont industrialisé, aujourd'hui, le nombre de populations qui a 65 ans est plus élevé que les 5-15 ans. Okay. C'est terrible. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un reconfiguration économique pour que finalement ces personnes âgées puissent avoir une certaine utilité sociale et économique.
D'accord. Oui, quand on parle de géopolitique, souvent on parle aussi de rapport de force, rapport de force dans le jeu international, dans les relations internationales. Aujourd'hui, à quel niveau se joue véritablement le rapport de force?
Alors, à plusieurs niveaux. Sur le plan militaire, je dirais, quand on prend le rapport du Stockholm Institute International for the Peace, je crois que tout le monde accepte, je crois, les chiffres de cet institut. La première puissance économique reste les États-Unis. Ils prennent 50 critères. Et sur ces 50 critères, naturellement, il y a le niveau des équipements, il y a le nombre de soldats, il y a le budget, etc. Alors, je vous donne rapidement les chiffres concernant les trois premiers. Okay. Les États-Unis, si je ne m'abuse, sont aujourd'hui à 1,4 million d'actifs pour 440 000 réservistes. Leur budget militaire, c'est 775 milliards de dollars. 775 milliards de dollars. Okay. Alors, si vu de la Chine a l'armée... Non, excusez-moi. Si vu de la Russie. Okay. La Russie, si je ne m'abuse, c'est à peu près 600 et quelques mille actifs pour 250 000 réservistes. Qui a un budget de l'ordre de 158 milliards en 2022, et vient, en termes de puissance militaire, la Chine. La Chine, qui a l'armée la plus importante en termes de chiffres, puisque c'est 2 millions plus 500 et quelques mille réservistes. 2 millions d'actifs, 500 et quelques mille, avec un budget de 258 milliards de dollars. Bon. Mais, bon, quand on voit ces chiffres-là, on va voir qu'il y a beaucoup de... On pense qu'il y a beaucoup de différences, mais quand on intègre les autres paramètres, la différence n'est pas aussi importante, parce que l'indice, c'est plus on s'approche de zéro, que on est puissant. Donc, si je ne me trompe pas, les États-Unis, c'est 0,52, la Russie, c'est 0,54, donc il n'y a pas une grande différence. J'ajoute même que... Quand on prend aujourd'hui les armes les plus sophistiquées, telles que les missiles supersoniques, la Russie a une avance, elle a à peu près 2000. Et vous savez, ces missiles, je crois qu'on en a parlé une fois, supersoniques, ce sont des missiles qui ont à peu près 12 000 km à l'heure, qui 5 fois la vitesse du son, et qui ont surtout cette particularité, c'est que quand on envoie des missiles d'interception, les batteries, ils ont ces missiles dans la capacité de les contourner. C'est-à-dire que ce sont des missiles sur lesquels on peut agir. Alors, ça fait beaucoup de dégâts en Ukraine. Bon, dernièrement, les Américains ont donné un système de défense aux Ukrainiens qui s'appelle Patriot, sans E à la fin. Et selon les Ukrainiens, ils ont détruit 7 missiles supersoniques. Et selon certains experts, la Russie aurait déjà utilisé la moitié des 2000, selon certains experts. Or, un système comme ça, à l'unité, c'est 1,2 million de dollars. Ça vous donne une idée.
D'accord. Ça, c'est sur le plan militaire. Donc, sur le plan militaire, si on fait le classement selon votre argumentaire, les États-Unis viennent en première position, suivi de la Russie, ensuite la Chine.
Voilà. Quatrième l'Inde.
Quatrième l'Inde, voilà.
Cinquième, Corée du Sud.
Corée du Sud.
Ensuite, la France vient.
D'accord.
Elle est suivie du Brésil.
Oui.
Pardon. L'Angleterre d'abord, ensuite la France.
Ok, l'Angleterre vient avant la France.
L'Angleterre vient avant la France. La France a perdu deux positions. Hein.
D'accord.
La France est actuellement 9e.
La France est 9e.
9e puissance militaire.
D'accord. Maintenant, ça, c'est sur le volet militaire, hein, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, et puis l'Angleterre, la France, ensuite le Brésil. Maintenant, sur le volet économique, est-ce que là aussi, qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que c'est le même. Ça change.
Okay. Ça change. Les États-Unis restent la première puissance économique du monde, suivie par la Chine. Mais on sait que dans 15 ans maximum, la Chine sera la première puissance économique du monde. J'ai les chiffres, hein, je ne vais pas ennuyer vos téléspectateurs avec tous ces chiffres-là.
Dans les années à venir ou dans un avenir proche, la Chine
sera la première puissance économique du monde. Même les États-Unis reconnaissent ça.
Okay.
Et c'est un des enjeux d'ailleurs géopolitiques. Parce qu'en réalité, le problème des États-Unis, ce n'est pas tellement la Russie, c'est la Chine. Parce que les États-Unis ont du mal à accepter qu'il y ait une autre puissance qui les dépasse.
Okay.
Alors, il y a deux thèses aux États-Unis, pour simplifier. Il y a une thèse qui dit, essayons de composer avec la Russie. C'est la thèse un peu des républicains. J'ai pas de choses. Hein. C'est la thèse des républicains.
Oui.
C'est un peu ce que Trump essayait de faire.
Oui.
Essayons de nous entendre avec Poutine.
Oui.
Et il ne faut pas qu'on la pousse dans la main, la Russie, pousser la Russie dans les mains de la Chine.
Oui.
Donc, chose. Bon. Et concentrons nos forces contre la Chine.
Oui.
Bon, les démocrates sont un peu plus va-t-en-guerre en disant non, il faut se débarrasser de la Russie d'abord, et ensuite la Chine sera isolée. Bon, sauf que dans un premier temps, ils sont en train de pousser la Russie dans les mains de la Chine, et que y a un axe qui se développe. C'est pas un axe durable, hein, pour tous ceux qui connaissent un peu la géostratégie, parce que les intérêts ne sont pas forcément convergents. Tant que il y a un agresseur externe qui est l'Occident, on s'allie. Mais une fois que cette menace sera moindre, les divergences sortiront sur l'Asie entre la Russie et la Chine.
Okay.
Maintenant, ce qui est en termes de puissance économique, il y a plusieurs critères.
Oui.
Ce n'est pas seulement le PIB que j'aurais pu vous donner. Il y a un certain nombre d'indices.
Okay.
C'est qu'aujourd'hui, L'Asie, c'est c'est 52% de la production mondiale. Premier signal. Quand vous prenez les plus grandes banques du monde, vous prenez les 5 seulement, il y a 4 banques chinoises et il y a une seule banque américaine, JP Morgan. Les 5 premières. Alors, si vous prenez également le nombre de brevets, là on va arriver sur l'aspect technologique, mais c'est c'est une mesure de la santé économique, c'est que c'est l'Asie qui dépose à peu près 55% des brevets dans le monde et c'est la Chine qui dépose le plus. Alors, là le problème sur le terrain économique est que l'Occident a, je dirais, pour simplifier, tricher normalement, quand ses intérêts sont en cause. Vous prenez le cas de Huawei.
Et la marque.
Quand on disait qu'on attendait la 5G, ils avaient déjà la 5G.
Okay.
Quand ils ont voulu mettre sur le marché, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, ça va permettre de nous espionner, etc. C'est la même chose avec cette plateforme que les jeunes aiment bien. C'est pas TikTok, je crois.
Oui.
Bon, c'est la même chose. Ah, il faut pas que nos administrations utilisent, c'est une façon de nous espionner.
Oui.
Donc, c'était une façon de dire à Huawei, bon, on veut pas de votre 5G, parce que Cisco, qui avait inventé la 4G, est en retard, les Américains avaient besoin de gagner 2 ans.
Okay.
Et donc, toute cette histoire, de toute cette cabale, en attendant, ils ont dit OK, mais ce qui va se passer, quand ils vont revenir sur le marché, ils auront la 6G. Okay. Bon. Donc, ça veut dire que la règle même de concurrence qui est vantée par le système capitaliste, et je ne suis pas en train de faire l'apologie des autres régimes, mais vous voyez, le rôle d'un intellectuel, c'est de dire les choses sans parti pris, avec beaucoup de recul. C'est ça le rôle d'un intellectuel. Donc, ce que je dis, ça ne veut pas dire que j'approuve le système. Je décris le système, je dis ce qui se passe dans le monde et ce que l'Occident fait. Ça ne veut pas dire que les Chinois sont plus gentils, ça ne veut pas dire que les Russes sont plus gentils. Moi, je dis, ils sont les mêmes. Ils ont un seul critère, leur intérêt. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dedans. Quand on veut comprendre ce qui se passe, il faut regarder quels sont les intérêts en jeu.
Donc pour vous, hein, c'est les rapports de force, hein, ce sont les intérêts qui priment d'abord avant.
Mais quand les intérêts commandent de s'unir, ils ont l'intelligence de s'unir. Et quand il faut compétir ou même se faire la guerre, ils le font. D'ailleurs, quand on regarde bien, moi, quelque part, souvent, je me pose la question. J'ai dit, mais finalement, cette guerre de l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas quelque part suscité? Bon, parce que quand on voit un peu les modèles de développement, je crois que quand Poutine est arrivé, dans les années 80, à la suite de l'effondrement de l'Empire soviétique, bon, il y a eu, après la chute de Gorbatchev, il y a Boris Yeltsin qui est arrivé, ensuite il a été le chef de renseignement de Boris Yeltsin, et puis il l'a remplacé. Je crois qu'au début, il avait la volonté de faire la paix avec l'Occident, sincèrement. Mais seulement, ce qu'il voulait, c'était qu'on reconnaisse que la Russie, même si l'Union soviétique est tombée, la Russie reste une grande puissance, et militaire surtout. Donc il voulait être membre permanent. À l'époque, c'était le G7 qui devait devenir le G8. Non, on n'a pas appelé le G8, on a dit G7 plus 1. Donc on lui donne un certain côté. Donc, je crois qu'on l'a poussé, parce que le fait qu'il ait adopté de dire, bon, finalement, puisque on veut nous humilier, puisqu'on ne reconnaît pas notre puissance, donc moi, je vais montrer mes muscles, ça l'a amené à investir beaucoup dans le militaire. Et du coup, sur le plan économique, alors que la Russie a tout, la Russie c'est le plus grand État du monde, qui a ce sol extraordinaire, tout ce qu'on cherche, la Russie, là. Mais il n'y a pas eu un véritable développement économique, en tout cas bénéfique aux Russes, puisque la Russie reste dans le classement, selon les cas, 9e pour ceux qui sont plus justes, et 12e ou 13e pour ceux que je dirais qui cherchent un peu à montrer que c'est une puissance provinciale, comme disait une fois Obama. Bon, et du coup, cette option militaire, l'aboutissement, ça a été l'Ukraine. Parce que quand, il faut le dire, au moment de, là on fait de l'histoire, au moment de l'affaire des missiles soviétiques à Cuba, quand on a failli frôler la troisième guerre mondiale entre Kennedy et Khrushchev, quand ils se sont mis d'accord, il a été question que, mais par contre, les pays qui sont dans le bloc soviétique, on ne les touche pas, en aucun cas. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après la chute du mur de Berlin, après l'effondrement du bloc soviétique et du bloc de l'Est, tous les pays, Pologne, Roumanie, Tchéquie, Hongrie et Bulgarie, tous sont allés à l'Union européenne, à l'OTAN. Et là, Poutine a dit, bon, ça suffit, les quatre qui sont proches de moi, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, j'oublie le nom du quatrième, je ne veux pas qu'on touche à ça, vous les laissez. Bon, maintenant, quand, regardez ce qui s'est passé, il y a eu des élections, je ne sais plus à quelle année, en Ukraine, où il y a un président pro-russe qui a gagné l'élection présidentielle. Et puis, il y a eu des mouvements. Et on sait, avec le recul, comment ce mouvement a été financé. Et donc, on a fait tomber ce président, on a fait une transition, ensuite on a fait des élections, on a mis un pro-occidental. Okay. Du coup, l'Ukraine devient une sorte de menace à la porte de choses. Oui. Mais sauf que, je me demande, est-ce que Poutine n'est pas tombé dans ce piège en attaquant l'Ukraine? Parce que dès qu'il a attaqué l'Ukraine, un pays comme la Finlande, qui a plus de frontières que les choses, est passé dans l'OTAN, la Suède va passer dans l'OTAN, et l'OTAN même, qui était moribond, vous vous rappelez de la phrase de Macron qui disait que l'OTAN est en mort artificielle, en survie artificielle, mais aujourd'hui, il a réuni l'OTAN, qui est devenu un bloc homogène derrière les États-Unis. Donc, pour moi, je ne sais pas comment va se terminer cette guerre russo-ukrainienne. Je suis sûr que ça se terminera par les négociations et que actuellement chacun cherche à consolider ses positions pour pouvoir négocier en rapport de force.
Ok, d'accord. Oui, parlons maintenant de l'Afrique, parce que quand on voit ces différents rapports de force, on ne voit pas que on se demande quelle est la place de l'Afrique dans ce jeu international, dans ce rapport de force. Est-ce que nous, on devient juste un terrain d'expérimentation pour les conquêtes de ces grandes puissances, c'est-à-dire cette guerre d'influence entre ces puissances-là? Est-ce que nous ne serons pas finalement des victimes collatérales, si je peux parler ainsi?
Il faudrait simplement qu'on sache ce qu'on veut. Que d'abord, il n'y a pas de modèle pour nous, que la seule question qu'on doit se poser tout le temps, c'est quels sont nos intérêts. D'accord. Et qu'on comprenne aussi que souvent, il est nécessaire de s'unir pour aller peser. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que l'Afrique a beaucoup évolué. Okay. On n'est plus dans le civisme. Regardez les votes qui se sont passés aux Nations Unies, à l'Assemblée nationale, pour condamner la Russie. La plupart des pays africains se sont abstenus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a compris que cette guerre n'est pas la nôtre. Elle n'est pas la nôtre. Et que nous, ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir trouver les bons moyens pour enclencher notre propre processus de développement. Et ça passe par la bonne gouvernance. Ça, on peut prendre de quelque façon que ce soit, on tombe sur ça.
D'accord.
Des visionnaires, des équipes compétentes, à qui on confie des postes de responsabilité, on les laisse travailler et on sanctionne ceux qui ne sont pas bons et on accompagne et on ceux qui sont bons. Ce n'est pas seulement les postes administratifs, c'est aussi des grands capitaines de l'industrie. Si demain, au Mali, nous avons des opérateurs économiques qui excellent dans leur domaine, mais si l'État décidait de les encourager, de les soutenir, mais ils seront des grands capitaines. C'est ce que Obasanjo a fait au Nigeria. C'est ça qui a donné naissance au Dangote et autres. Okay. Donc, nous, les Africains, il faut simplement qu'on sorte des faux problèmes, qu'on sorte des slogans creux, comme vous le disiez, et qu'on se dise, la seule voie qui doit être la nôtre, c'est de trouver le moyen de nous développer. D'accord. Et cela passe effectivement par les ressources humaines, cela passe également, parce que nous avons une chance extraordinaire, une des guerres terribles, qu'on parle de choses politiques, une des guerres terribles, ça va être la guerre de l'eau qui a commencé. Okay. La guerre de l'eau, on va manquer d'eau. Okay. Sans compter le réchauffement climatique.
On va parler un peu des changements climatiques et puis des risques environnementaux, si vous le permettez. Mais déjà, le Mali qui a choisi aujourd'hui sur le plan militaire comme partenaire la Russie, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix aujourd'hui? Et que c'est un choix payant, parce que vous avez dit que... Les grandes puissances n'ont que des intérêts. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a tout à gagner aujourd'hui avec la Russie sur le plan militaire?
Alors, si on n'avait pas cette guerre, j'aurais dit que non, que ce n'était pas un bon choix, que notre position devrait être d'être neutre le plus que possible, qu'on ne rentre pas dans cette guerre qui nous dépasse totalement. C'était chaud. Maintenant, on est face à une situation, on est dans une guerre où on est attaqué. sur plusieurs fronts. Ouais. Notre armée a besoin de temps, okay. a besoin Absolument. De temps ouais. pour se former, ouais. pour acquérir des équipements. Nous sommes dans la bonne voie. Okay. Pour, je crois que tout le monde l'admet, ouais, ouais. quand même qu'il y a vraiment un mieux ouais. Au niveau de nos forces de défense ouais. et de sécurité. Ouais. Bon, mais au moment où ça s'est passé, il aurait fallu que nous ayons ouais. des soutiens. Alors, moi, à mon avis, l'erreur qu'on a faite ouais. est de ne pas l'avoir assumée. Okay. C'est-à-dire que nous avons le droit, ouais, ouais. nous avons absolument le droit de faire appel à une milice okay. privée pour nous aider. Faites que ça s'appelle Wagner.
Ouais, ouais. Ça, ça... Pour vous, on ne s'est pas assumé.
Parce qu'on on a essayé de dire que c'est des instructeurs, etc. Okay. Mais ce n'était pas la peine. Il fallait s'assumer. Mais les Américains le font. En Irak, chose. Il y a Blackwater ou quelque chose de ce genre. Il y a au niveau de, des pays européens, il y a comment s'appelle le grand musicien là, Mozart. Okay. Ça, ce sont les milices privées. Okay. Donc, un pays, ouais. si c'est dans le temps, a tout à fait le droit oui. de se renforcer
et d'assumer.
Et une fois que c'est fini, oui. on les remercie. Entre-temps, notre armée est formée, etc. Okay. Bon, mais c'est parce qu'on est rentré dans ça, mm-hmm. et que, alors que nous sommes en train de dire, Poutine même dit, non, c'est pas c'est purement commercial. Mm-hmm. Lavrov vient, Lavrov le dit, il a répété encore quand la Russie a pris la présidence du Conseil, de la présidence tournante du Conseil de sécurité, il a dit, mais qu'on en finisse, qu'on dise, oui, mm-hmm. nous avons le droit de le faire, okay. et nous le faisons, mm-hmm. et c'est limité dans le temps, mm-hmm. en attendant, nous avons des résultats sur le terrain, mm-hmm. et... Moi, dans quelques années, on en finira avec ça, parce que mm-hmm. Ce qui me rend optimiste dans ça, mm-hmm. c'est que ces forces du mal n'ont pas de projet de société. Okay. Elles savent détruire, mais elles n'ont rien okay. à proposer. Ouais. Donc, au finish...
Ouais, ouais. Les forces du bien
on y arrivera.
Sur les forces du mal.
Inch'Allah.
D'accord. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'autre enjeu, le changement climatique. Hein. Aujourd'hui, il y a aussi la question de l'énergie. Vous êtes un expert de la question. Vous avez été ministre de l'énergie et des mines. Hein. On va parler peut-être de l'énergie rapidement. Avant de parler de l'énergie, mais déjà, hein, par rapport aux risques, hein, les risques environnementaux. Aujourd'hui, tout le monde parle du réchauffement climatique. Comment se porte aujourd'hui l'avenir de notre planète?
Inquiétant, l'avenir. Vous avez vu le dernier rapport du GIEC, qui est un groupe d'experts indépendants oui. Sur le climat, et qui disait qu'on va retrouver un réchauffement de plus de 1,5 okay. dans les 5 dernières années. Je crois même que ce n'est pas le GIEC, ça c'était l'organisation, c'était les Nations Unies oui. qui disait ça, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc les 5 prochaines années seront les plus chaudes. Okay. Ensuite, peut-être il y aura un mieux, oui. mais les tendances lourdes montrent qu'on va vers des...
Donc c'est une réalité, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde le fleuve Niger, hein, l'assèchement du fleuve, tout de suite, on comprend que, bon, voilà, il y a ces années, ce n'était pas comme ça. Voilà.
Oui, demain, j'aurai une communication au Forum de Bamako sur le barrage et tout ça. Oui. Mais il faudrait résoudre les problèmes en amont. Oui. Ah, notamment, Taoussa ne sera viable que si on fait le barrage du Fomi en Guinée. Mais ça, devant, on pourra...
Les risques environnementaux hein, pour
mais c'est pour la région. Que Dieu nous en préserve, mais ça va être le retour des sécheresses. Ça va être des pluies catastrophiques, c'est-à-dire qu'il y aura une alternance 3 ans, 4 ans. C'est dans les faits. Hein, ça, je trouve que c'est même trop tard. Donc, maintenant, toute la question oui. est de nous adapter. Okay. La question n'est pas est-ce que ça va se faire oui. La question est quand ça va se faire. Oui. Et pour qu'on puisse survivre, oui. il faudrait qu'on anticipe. Et le problème est que, pour le moment, on a le nez dans le guidon parce qu'il y a tellement de problèmes immédiats à résoudre oui. qu'on ne peut pas se projeter dans un horizon moyen terme.
D'accord. Docteur Ahmed Sow, hein, vous êtes un spécialiste aussi hein, de la question énergétique, hein, l'énergie. Avant de donner la parole aux téléspectateurs pour une ou deux questions, et je voudrais peut-être avoir votre expertise, votre éclairage sur la question. Aujourd'hui, à Bamako, tout le monde se plaint des délestages, des coupures d'électricité, tout le monde. Bamako est dans le noir. Vous avez été ministre de l'énergie et des mines. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Parce que les gens ont envie. La dernière fois, j'ai suivi un imam hein, qui demandait au gouvernement de s'expliquer par rapport à ces délestages. Il ne comprenait pas pourquoi il y a ces délestages-là aujourd'hui. Parce que tout le monde, pratiquement, on est pratiquement désarmé, on a envie de savoir, même sans être des techniciens, experts de la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, moi, je ne sais pas.
Est-ce que depuis que vous êtes à Bamako, vous avez remarqué ça, non? Déjà,
ah oui, bon, tout le monde m'en parle.
Est-ce que vous avez des échos?
Tout le monde m'en parle, mais je suis là, même si je suis à l'extérieur, je suis très bien ce qui se passe dans le pays. Tous les soirs, je fais ma revue de presse, et puis j'appelle des amis, on échange, etc. Donc, je suis informé de ce qui se passe. Alors, moi, je ne sais pas si le CNP a interpellé le ministre de l'Énergie.
Non, si, ils ne l'ont pas fait.
Mais il faudrait qu'ils le fassent.
Ils ne l'ont pas
fait. C'est là leur rôle, que le ministre vienne nous dire qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est important. Maintenant, je crois que... Moi, j'ai entendu que, oui, ces problèmes sont dus au fait qu'on n'a pas fait beaucoup d'investissements et que, bon, en tout cas, quand nous, on y était, il y avait moins de 10 dressages par an, déjà.
10 dressages par an.
Moins de 10 dressages. Poser la question aux gens de EDM, il y a certains qui sont...
Mais entre-temps, est-ce que la population, la démocratie, avec
la population
crise de 2012,
a augmenté, on a investi dans l'offre énergétique.
Ok.
Nous avons qui a signé, qui a amené l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Mali, même si qui c'est pas TT, SOPAM. Dans le cadre de l'EMVS, le barrage de Filou, le financement du barrage de Guina. Donc, moi, je disais que si on avait 5 autres années, que j'allais apporter la puissance à 1000 mégas. C'était possible. Moi, la question que je me pose, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à augmenter l'offre énergétique? Parce qu'une des choses les plus simples, c'est que tout le monde veut investir aujourd'hui dans le solaire. Tout le monde veut investir dans le solaire. Oui. En BOT, c'est-à-dire que l'État n'a rien à sortir. L'État donne le terrain, il discute avec les investisseurs sur le tarif. Et puis, une fois qu'ils sont d'accord, ils installent, ils exploitent pendant 15 ou 20 ans. Après, ça tombe dans le domaine public. Ça, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Donc, c'est une des interrogations que je me pose. Bon, la seule chose que je dirais, les effets d'annonce, ça ne résout rien. Parce que la réalité finit toujours par rattraper. Alors, je n'ai pas de réponse précise à votre question, parce que le ministre, il me connaît, il sait que je peux l'aider, c'est un petit frère pour ne pas dire un neveu, si lui ne m'appelle pas, moi je ne vais pas courir de lui. Je l'ai dit plusieurs fois.
Pour les Maliens, peut-être vous avez quand même été formé dans des grandes écoles, diplômé de l'Institut national des sciences de nucléaire de Saclay en France. Hein, donc, doctorat, vous êtes titulaire d'un doctorat en économie de la production. Hein, voilà, donc vous avez quand même de l'expertise, vous avez été ministre de l'énergie pour le pays.
Je ne vais même plus loin, ce n'est pas le diplôme, ça ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le réseau, le réseau qu'on connaît. Et nous avons la possibilité d'amener des investisseurs, même si, pour des raisons sécuritaires, ils ne vont pas aller partout. Mais nous avons la possibilité, et ça c'est connu. Et j'avais dit à une émission publique d'ailleurs, qu'au moment où je parlais, j'avais 4 fois 60 millions de dollars pour investir. Mais notre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand on va dans d'autres pays, on vous envoie, c'est pas les petits avantages, mais on vous envoie, on vous cherche.
Mais ici,
on court derrière vous.
Et
vous avez... Moi, j'ai des exemples qui sont restés dans le truc. Il m'est arrivé d'aller installer dans un pays limitrophe. Bon, ça, c'était pas maintenant, c'était au temps de l'ancien régime. Mais j'avais été voir le ministre à l'époque pour lui dire, je peux installer deux centrales de 25 mégas. Vous me dites simplement, vous faites une lettre de manifestation d'intérêt et je m'occupe du reste. 10 jours, je n'ai pas eu sa réaction, je l'ai appelé. Il m'a dit, oui, c'est pas moi seul qui signe, je dois signer avec le ministre de l'Industrie et de l'Investissement. Oui. J'ai dit, ah ouais, c'est un neveu, je vais l'appeler. Je appelle ce dernier, il me dit, ben, je suis à Paris, j'arrive. J'ai dit, mais tiens, l'avion qui t'amène, c'est moi, je prends cet avion, donc tu me trouves dans le salon. Le garçon, il est, excusez-moi, le ministre, il est venu, j'étais dans le salon, il m'a dépassé, il est parti. Mais j'ai demandé à un de mes collaborateurs, allez-y, dans tel pays, dès les choses, vous serez reçu par le chef de l'État, on a installé.
C'est comme ça que le Mali a perdu.
Mais je peux vous multiplier les cas, même Bamako croule sous les déchets. Bamako croule sous les déchets. On avait un bon projet avec les Indiens de valorisation des déchets énergétiques. Ils voulaient donner 60 camions de voirie. Et à l'époque, comme je n'étais pas en odeur de sainteté avec le régime de faim, j'avais dit à un ami, écoute, sois le porteur de ce projet. Parce que dès qu'on entend mon nom, ils vont bloquer. Donc je l'ai dit, il est venu. Ils ont dit, oui, il n'y a aucun problème. Il a vu le ministre de l'Environnement, le maire de Bamako, le ministre de l'Énergie à l'époque. Il a vu tout le monde. Il a fait plusieurs réunions avec EDM. Ils ont dit, bon, maintenant, il faut faire l'administration de la preuve que vous avez de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous porter des projets, mais ils n'ont pas d'argent. C'est moi-même qui ai demandé à notre fonds d'investissement à Dubaï de faire la lettre et que j'ai traduit en français, j'ai envoyé ça. En ce moment, que le secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau écrit pour dire que non, ce genre de projet ne peut plus se passer de gré à gré au Mali. On fait venir les gens pendant une semaine. Ils voient tout le monde. Personne ne leur dit ça. Au moment où ils montrent qu'ils ont les financements qu'ils peuvent le faire, c'est en ce moment qu'on leur répond. Moi, j'ai... Donc, vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Mais j'ai une explication.
D'accord. Donc, après, vous allez nous dire ça peut-être en privé. Hein, voilà. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons donner la parole aux téléspectateurs pour une ou deux questions. Cette émission, nous avons voulu que ça portait un peu sur la géopolitique avec le docteur Ahmed Sow. Hein, on va revenir certainement très prochainement sur l'actualité nationale du Mali. Hein, il va nous donner un jour où on va parler certainement des solutions. Il a vraiment fait le diagnostic, mais il va nous proposer aussi des solutions dans le jour à venir sur les différentes thématiques. Mais en attendant, on va écouter quelques réactions. Rubrique questions directes des téléspectateurs.
Monsieur Sow, bonsoir. Vous qui avez participé à l'évolution du Mali de 1991 à 2023, vous entendez des contre-vérités soi-disant que pendant 30 ans, notre pays n'a connu aucune réalisation économique, politique et militaire. Dites-nous la vérité sur la gestion du pays. Les hommes politiques ont peur de quoi pour dire au peuple la vérité, car homme politique égale homme politique. Merci.
Bonsoir, Antaïr, Fofana Bakary de Libreville Gabo. Je salue votre invité, Dr. Ahmed Sow. Maké Sow, quelle proposition Dr. Ahmed Sow va nous proposer pour sortir de cette crise qui est dans notre pays depuis en 2012. C'est ça ma question. Merci, bonne émission, on vous salue.
Docteur Amertou, hein, c'était là quelques questions comme ça. Voilà, donc vous pouvez répondre. Oui.
Alors, la première question, c'est quelle solution pour. Enfin, de dire la vérité sur la situation.
Certains disent que rien n'a été fait depuis 30 ans sur les différents domaines qu'il a cités. Voilà, donc qu'est-ce que vous répondez?
C'est une insulte à la vérité. Dire que rien n'a été fait, c'est pas vrai. Et regarder un peu le bilan de ce qui s'est passé, de ce que je sais au temps de l'ATT. Regarder le nombre de kilomètres de route qui a été fait, regarder le nombre d'écoles primaires qui ont été créées, regarder le nombre de santé primaires qui ont été créées, regarder les infrastructures qui ont été mises en place. Alors dire que rien n'a été fait. Et il y a un critère qui ne manque pas, qui ne ment pas, c'est qu'en 2002, quand ATT arrivait, oui. Je crois que l'indice de pauvreté était autour de 56%. Quand ils partaient, on était en dessous de 50%. Okay. Donc, oui, il y a eu beaucoup de choses. Oui. Et puis, il y a eu ce coup d'État malheureux. Oui. Et ensuite, il y a eu une gestion, chose qui a amené le peuple à sortir. Oui. Et puis, les militaires sont intervenus pour parachever ce soulèvement populaire.
D'accord. Oui, l'autre question, quelle solution hein, pour sortir de la crise hein, que le Mali connaît depuis 2012?
Alors, moi, j'avais abordé cette question. Bon, malheureusement, j'ai l'impression aujourd'hui que le discours est inaudible, que des fois même, moi, par exemple, vous voyez que sur les sites dans lesquels on se retrouve, je ne parle plus, parce que il faut parler quand ça porte. Donc, mais quand chose... Alors, d'abord, une des faiblesses de notre pays, moi je dirais, c'est au niveau de l'intelligentsia, des intellectuels. Okay. C'est dû à. C'est structurel. Hein. Mm. C'est-à-dire que beaucoup, je dirais nous, pour ne pas. Nous dépendons trop des postes et des marchés d'État. Mm. Donc ce qui fait que c'est très difficile pour les intellectuels de pouvoir. Raisonner librement, de faire des propositions, parce que c'est ça le rôle d'un intellectuel. Oui. Alors, un intellectuel, il doit être, comme je le disais tout à l'heure, neutre. Oui. Il y a un être et sans arrêt penser. Oui. Sinon, on devient un militant. Okay, oui. Bon, donc, moi, j'ai l'avantage que j'ai beaucoup plus ma carrière derrière moi et que je n'attends rien. Donc, je peux dire ce que je pense. Moi, je crois qu'il faut que nous allons vers une plus grande cohésion, une unité. Et, d'abord, le sujet brûlant, c'est les prochaines élections. Si moi, j'avais un conseil. Si c'était le président Assimi qui était en face de moi, je lui dirais, monsieur le président, reporter cette élection. Parce qu'une constitution non consensuelle, voué à l'échec. Constitution, ça doit rassembler le plus de Maliens possible. Okay. Et le jour où ça passera, ça doit passer avec un score extrêmement important, non contesté, et ça doit être la fête. Okay. Donc, cette constitution, il n'y a pas eu, à mon avis, suffisamment de concertation. Okay. Il ne faut pas passer en force. Ça, c'est le premier conseil que je lui donne. D'accord. Le deuxième conseil, c'est de lui dire, maintenant, réunissez toute la classe politique, toutes les associations. Mm. Ça fait un an que je répète, hein, rassemblez tout ça. Vous avez, vous, encore, la légitimité. Vous avez, parce que il y a un certain consensus autour de votre nom. Oui. Donc, vous avez encore cette possibilité-là. Et réunissez tout le monde et dites, bon, maintenant, mettons-nous d'accord sur un chronogramme. Précisez votre position. Vous êtes un Malien. Si vous voulez être candidat, dites-le clairement. Moi, mon conseil, c'est de lui dire, ne le faites pas. Okay. Faites comme ATT. Moi, je souhaite qu'au lieu d'aller chercher à être Giro Rawlings ou Sankara, cherchez d'abord à être comme ATT. C'est-à-dire, organiser les élections librement. Faites en sorte que le choix des Maliens soit respecté. Et je vous assure que dans 5 ans, les Maliens vont aller vous plébisciter. Okay. Et vous allez revenir. Oui. Et vous êtes encore jeune. Oui. Vous pouvez faire 10 ans encore. Oui. Et c'est mieux. D'accord. Parce que oui, il peut se présenter, il peut gagner, je pense, mais il y aura toujours des questionnements là-dessus et ça peut engendrer beaucoup de problèmes avec la communauté internationale.
D'accord. Docteur Ahmed Dessau, donc nous sommes à la fin de l'émission. Comme je le disais en introduction, on a voulu que cette émission soit axée réellement sur les questions de politique internationale. Nous allons prendre un jour où nous allons véritablement parler du Mali, de toutes ces questions-là. Un message pour les Maliennes et les Maliens qui nous regardent ce soir un peu partout dans le monde.
Bah, écoutez, d'abord, je tiens à vous remercier, parce que, comme je dis, c'est toujours un plaisir de renouveler, de venir discuter avec vous. Je dirais que les temps sont durs, les temps sont très durs, mais que l'avenir est prometteur, peut-être pas dans un horizon court, mais je suis sûr et certain que le Mali est un grand pays, nous avons une grande histoire, nous avons des hommes valeureux, et je suis sûr qu'on finira par nous imposer dans le concert de la nation.
Okay,
Il faut que l'espoir demeure.
Merci, docteur Amersou. C'est un plaisir aussi, Renouveli, de partager cet entretien avec vous. Merci, vous êtes un brillant interlocuteur, une fierté malienne. Vous avez parlé d'intelligentsia malienne, vous faites vraiment honneur à cette intelligentsia. Merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours au Renouveli au programme de Djoliba TV News. Rendez-vous est pris à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté.
En toute liberté.